Vous écoutez
RMC. RMC Poker Show.
Daniel Riolo et Mindy.
Salut à tous les amis, bienvenue dans le RMC Poker Show. Comme tous les dimanches, on est ensemble pendant une heure pour l'actu du poker, les invités, le jeu. On va, comme d'habitude, passer une heure ensemble. Salut Moundir.
Eh ouais, il n'y a pas qu'une heure ensemble qu'on va passer, parce que ça fait maintenant bientôt 5 ans que ça dure entre toi et moi, Daniel. Donc, forcément.
C'est vrai. C'est vrai, je ne pensais pas que tu allais tout de suite faire référence à notre longue relation comme ça, publiquement devant tout le monde.
Ah bah écoute, ça y est. Ouais. Ça y est.
Alors, le programme ce soir, comme d'habitude, des invités. Et ce soir, on passe dans la catégorie prestige avec deux invités qui vont se succéder. Oh, je pense même qu'ils vont partager un petit peu l'antenne, un petit moment ensemble parce qu'ils se connaissent très bien. Elle n'est jamais venue, Moundir, dans le RMC Poker Show. Tu disais que ça faisait 5 ans que l'émission existait. On a reçu beaucoup de monde et beaucoup de très grands joueurs. Grande joueuse, elle l'a été longtemps, même si maintenant elle ne joue plus. Isabelle Mercier sera avec nous dans un tout petit instant.
Le Graal.
Derrière elle, Fabrice Soulier, qui se connaissait bien parce que ils ont joué beaucoup à la même période, bien sûr, même si Fabrice lui a continué sa carrière bien au-delà de celle d'Isabelle, qui a arrêté depuis un moment maintenant. Donc Fabrice Soulier sera également avec nous tout à l'heure. Et puis on jouera évidemment dans la tête d'un fiche, tous les deux, l'un contre l'autre, avec le regard de Pierre Calamusa. Ça fait un petit moment qu'il n'est pas venu nous voir, Pierre.
Ben oui,
Il va venir nous arbitrer tout à l'heure et jouer avec nous. Et puis on aura l'actu. Bon, alors l'actu, on le sait, depuis pas mal de semaines maintenant, c'est un peu pauvre puisqu'il n'y a plus les tournois live, mais on a quand même trouvé
deux, trois
trucs, notamment ce petit duel entre Daniel Negreanu et Doug Polk, dont il faudra qu'on parle.
Exactement.
Et puis, de ce joueur de foot.
Que tu connais, peut-être?
Je connais parce que forcément, il était pro, et il est passé par des clubs de Ligue 1. On savait qu'il jouait. C'est peut-être pas le joueur de foot dont on a le plus parlé dans ceux qui ont fait reconversion dans le poker. Je parle de Sébastien Grax. Mais là, cette semaine, il a fait tomber un énorme résultat dont on parlera tout à l'heure. On évoquera peut-être dans la tête d'un pro, j'imagine que tu suis les épisodes Moundir chaque semaine.
Totalement.
Et alors, les deux premiers, c'est marrant parce que j'avais oublié d'en parler, je voulais qu'on en parle ensemble, parce que d'habitude, dans la tête d'un pro, on a toujours les mecs qui se baladent un peu, forcément, ça les met en valeur. Mais alors là, on a eu le premier épisode, Adrian Mateus Diaz, qui a pris tarte sur tarte.
Ah bah, il en a mis partout.
Que je pensais même pas que ça pouvait arriver. Ensuite, Romain Lewis dans la foulée, le pauvre, lui aussi, il a morflé.
Et là, on revient
avec l'épisode de la semaine dernière où Adrian Mateus Diaz dans un autre tournoi.
Dans le main event.
Et là, c'est... Ouais, dans le main. Et là, ça allait beaucoup mieux. Ça allait beaucoup mieux pour lui. Voilà, ça fait tout le programme. Et puis on terminera avec Tu Bluffes Martoni. Là encore, on s'affrontera tous les deux. Voilà, c'est parti pour notre invitée ce soir. Je crois qu'elle est déjà avec nous.
Et quel plaisir.
Je crois qu'elle est à Montréal, donc très loin. Mais oui, c'est bon. On a les moyens modernes de communication. Isabelle Mercier est là. Salut Isabelle.
Salut Isabelle.
Salut à vous deux. Merci de l'invitation. En effet, une première en 5 ans.
Ah ben voilà.
Ben oui. Alors est-ce qu'on vous a pas invité parce que finalement ça fait quelques années maintenant que vous n'êtes plus dans le poker. Est-ce que vous-même vous parlez plus trop de poker? Est-ce que ça vous passionne encore ou est-ce que vous en êtes de votre relation avec ce jeu?
Je suis toujours en relation avec le poker, hein. Ça reste une passion, c'est une passion pour la vie. Je joue encore, je ne joue plus sur le circuit. Bon, en ce moment, personne joue sur le circuit là, vous direz. Mais je ne joue plus autant qu'avant. Par contre, je joue beaucoup au poker chinois, donc à l'Open Face Chinese Poker, plusieurs heures par semaine sur un site dont je suis ambassadrice qui s'appelle Coin Poker, sur lequel on joue en crypto-monnaie. Donc ça fait encore partie de ma vie, définitivement.
Et tu joues? Alors Isabelle, je ne sais pas si je pense que tous les gens qui nous écoutent évidemment vous connaissent, mais alors on rappelle quand même que vous êtes une ex-joueuse professionnelle, on va dire dans les années 2000, parce que votre retrait du circuit c'est 2011, hein, c'est ça la date. Vos résultats principaux sont dans les années 2000, en 2004 le Ladies WPT notamment, c'est là où vous endossez votre nouveau surnom que vous donne Mike Sexton à l'époque, non merci. 2006 la table finale EPT Deauville, c'est dans la foulée que vous êtes l'un des 3-4 personnages principaux du fameux documentaire That's Poker, qui a fait beaucoup pour votre notoriété et puis également pour tous ceux qui ont commencé dans ces années-là à suivre le poker. Finalement, c'est un peu en vous regardant, vous, Fabrice et Joe HM, qu'on a eu nos premières émissions et nos premières émotions via des joueurs pour Las Vegas et les WSOP. Ça, c'était en 2006. Vous avez fait une autobiographie 2008. Bon, votre carrière est assez longue. Vous avez vécu à Monaco. Vous êtes désormais retourné chez vous à Montréal et effectivement, depuis 2011, vous êtes retiré du circuit. Voilà, c'est un CV un peu express. J'ai rien oublié, Isabelle?
Non, c'est à peu près ça. Et en effet, 2006, c'était l'année de Das Poker, les plus, pour, selon moi, les plus belles années du poker dont j'ai pu profiter. J'ai extrêmement de beaux souvenirs, un beau parcours. Je suis vraiment, vraiment reconnaissante d'avoir pu vivre tout ça. Et c'est vrai que oui, depuis une dizaine d'années, je suis moins présente sur le parcours. Encore une fois, je joue toujours, mais je me suis tournée vers des orientations un peu plus. Je dirige un site de nouvelles de crypto-monnaies. J'ai d'autres activités professionnelles, mais je ne délaisse jamais le poker.
Alors justement, tu vas me laisser un petit peu parler maintenant, Daniel, parce que Daniel me reproche d'être long dans mes questions, mais effectivement, Daniel,
je t'en prie, Moundir, je te laisse Isabelle. Alors,
j'ai attendu 5 ans pour lui parler. Écoute, je suis désolé, je vais quand même lui parler. Isabelle, pourquoi jouer au poker avec de la crypto-monnaie, s'il te plaît?
D'abord, il y a plusieurs avantages. Ouais. Déjà, la crypto-monnaie en soi, par rapport au poker directement, c'est un des principaux avantages, c'est les dépôts et les retraits instantanés. Puisque la crypto-monnaie n'est pas une monnaie qui est contrôlée par une banque, par un gouvernement, par une tierce partie. Si moi, je décide de déposer sur un site de crypto, j'envoie de l'argent de mon propre wallet crypto au site. D'accord. Et ça arrive instantanément et je peux jouer tout de suite. Et les frais de transfert sont faibles, sont très, très petits. Il y a des transferts qui sont en crypto-monnaie de millions de dollars pour quelques centimes de frais. Donc, on n'est plus du tout dans les taux des banques ou des exchanges. Donc, ça, c'est un avantage incontestable. Le retrait, c'est pareil. Je retire mon argent, je l'ai tout de suite, on le voit sur la blockchain, c'est chez moi. Il n'y a pas personne qui peut dire non, on va empêcher Mastercard de faire des retraits ou des dépôts sur des sites de jeux.
D'accord.
Donc, on vient. À... Oui, dis-moi.
Non, je t'en prie, excuse-moi. Et par rapport à la fiscalité, Isabelle, comment ça se passe avec la crypto-monnaie à Montréal ou au Canada, au Toronto, Montréal?
Écoutez, le système commence à se mettre en place un peu partout. Donc, évidemment, il faut déclarer ses gains en crypto-monnaie comme tous les gains. Après, pour le poker, ça ne change rien. Donc, si on est professionnel de poker, on doit déclarer nos gains en poker, que ce soit en crypto ou en monnaie fiat. Et si on n'est pas professionnel et qu'on a des gains en gain de net, c'est pareil, c'est non imposable dans la plupart des pays. Mais après, c'est à chacun de déclarer soi-même ses gains, que ce soit en crypto-monnaie, en bitcoin ou en dollars ou en euros. Ça ne change pas.
Bon Isabelle, moi de toute façon je connais pas grand chose à la crypto-monnaie et encore moins la fiscalité, donc je vais revenir au poker si tu veux bien. ça te manque jamais, parce que tout à l'heure quand on a parlé un petit peu, quand j'ai fait ton CV Express, tu parlais de belles années et j'imagine qu'effectivement ça a été des grandes et belles années pour toi. Jamais ça te manque, jamais tu n'as une pointe de nostalgie pour tout ça, te dire tiens je me referais bien, bon alors en ce moment c'est vrai qu'on peut pas, mais un petit retour à Vegas, je me ferais bien un tournoi. Parce que pour ceux qui savent un peu ce que tu as fait, tu étais à fond dedans quand même, tu étais passionné par ce jeu.
Ouais, bien sûr, ça me manque régulièrement. Bon, c'est vrai que je suis une personne quand même assez extrême dans le sens que j'ai vécu dans mes valises pendant 5 ans. J'avais pas d'appartement, j'ai vraiment vécu dans les hôtels, donc c'est j'en ai vraiment profité un max. Aujourd'hui, je recommencerai pas ça, je vais être totalement honnête. Je suis très bien là, chez moi, à Montréal, dans mon petit condo, dans mon c'est douillet, c'est confo, je suis très bien. Bien sûr, je suis souvent nostalgique. Hier soir, j'ai regardé le WPT de Surinder Sunar avec Tony G, l'Aviation Club de France. Ça m'a fait revivre. Il y a 2 semaines, j'écoutais votre émission avec Bruno. Pareil, il a nommé des noms, il a parlé de souvenirs. C'est sûr que ça vient bousculer en moi des choses qui m'ont plu. Donc oui, forcément, j'ai beaucoup de nostalgie, mais en même temps, bon, j'aime beaucoup ce que je fais actuellement. Et encore une fois, je joue encore au poker. Et comme je suis spécialisée dans le poker chinois, et c'est ce que j'aime vraiment, c'est certain que... Mais en tout cas, je ne voudrais pas me déplacer s'il y avait des tournois internationaux de poker chinois. Parce que ça vient vraiment me chercher. Quoi.
Pour le coup, je rebondis sur ce que tu dis, Isabelle. Je trouve que il manque des personnages comme toi actuellement dans le poker, parce que c'est vrai que, en tout cas moi qui ai beaucoup suivi, j'ai eu la chance de te croiser un jour à Marrakech sur un Six Mix, je crois. Et moi, la raison qui me pose à te poser cette question, c'est pourquoi au bout d'un moment tu t'as dit stop, j'arrête le poker. C'est quoi qui t'a fait enlever ce qui te rendait emblématique, quoi, c'est-à-dire la passion que tu avais et puis que t'étais un vrai personnage surtout.
Je crois que ça s'est fait tout seul. Ça a été un peu une succession d'événements, mais le gros déclencheur, ça a été premièrement, j'ai quitté PokerStars pour partir avec Betclic dans une relation qui s'est pas passée comme je l'attendais, dans laquelle j'aurais dû avoir un plus grand pouvoir de décision sur l'orientation, le marketing, les choix, et ça ne s'est pas passé. Donc ça a été un petit, c'est quelque chose que je pense que je regrette, hein, avec du recul, 10 ans plus tard. Ça ne veut pas dire que je serai toujours chez PokerStars, mais bon, on ne sait pas où ça aurait mené. Et après, je me suis installée à Monaco, et là, on a eu un très, très gros projet d'ouvrir une Poker Room à Monaco. Ah. Donc, avec des personnes très influentes, dont Guy Laliberté, Garou, Le Prince, ça a été vraiment, j'ai travaillé très dur sur ce projet pendant plusieurs années, donc je n'avais plus le temps de voyager autant. Et malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé. Donc, un autre petit regret qui me dit dans ma vie, bon, ce n'est pas de ma faute. Mais c'est en bout de ligne, j'ai décidé de revenir à Montréal, mais je joue toujours au poker. Mais c'est vrai que toute cette succession d'événements font que je voyage moins. Je suis allée à Vegas cette année, je ne suis pas allée, bien sûr. L'année dernière, je suis allée. Mais en bout de ligne, j'ai joué le main event et un autre tournoi. Et le reste des 10 jours, je les ai passés en cash game, en OFC, au win. Donc, ma passion, ce n'est vraiment plus le Texas Hold'em, limite. J'aime ça encore, mais ma passion, c'est vraiment le poker chinois.
Isabelle, tu as cité là, dans ta dernière phrase des noms de personnalités canadiennes, et c'est vrai que on a le sentiment qu'il y a une vraie culture du poker dans ce pays, et que les personnalités, en tout cas celles que nous on connaît en France, que ce soit des chanteurs, des gens du spectacle, Guy Laliberté évidemment, qui a été à Vegas un pionnier avec les gros tournois qui se faisaient autour de lui, il y a une culture très forte du poker dans ce pays.
C'est-à-dire que nous, on commence à jouer au poker. Moi, j'ai commencé à jouer à 4 ou 5 ans avec mon père, mes oncles. C'est vraiment un truc ici qui existe en Amérique du Nord depuis longtemps. Les jeux de cartes, les jeux de poker, bon, c'était pas du Texas Hold'em aux limites, c'était du poker fermé. Et toutes sortes de variantes de stud, qu'on appelle ici Dame et la Suivante, King and No, il y en a des tonnes. Donc ça, c'est quelque chose qui fait partie de... Ouais, c'est vrai, c'est quelque chose qui fait partie de la culture. Et du coup, moi, quand je suis arrivée à Paris en 99, à l'aviation, ça a été pour moi un choc social. Personne ne savait jouer au poker. Il y avait la belote, ouais, mais il n'y avait pas de poker, il n'y avait rien de tout ça. Et pour moi, ça a été comme, non, sérieux, vous ne jouez pas aux cartes depuis que vous êtes gamin. Et donc ici, c'est vrai que c'est un truc de culture. Donc je pense qu'il y a un phénomène.
J'aime beaucoup Dame.
Aujourd'hui, encore plus.
J'aime beaucoup Dame et la Suivante.
Et pendant longtemps, Isabelle, tu le sais bien, pendant longtemps, à chaque fois que on parlait du poker et que le grand public le découvrait à la fin des années 2000, tu as représenté la femme qui joue au poker, parce que évidemment, on disait il y en a pas, il y en a peu, et à chaque fois que on se disait tiens, est-ce qu'il y a une femme qui joue au poker, c'était toujours ton nom qui revenait. Est-ce que d'abord, comment tu vivais cet événement-là, le fait d'être la seule femme d'un très bon niveau qui jouait, et ensuite deuxième question qui en découle, est-ce que tu penses avoir déclenché des vocations?
D'abord, première partie de la réponse, comment je le vivais, très bien, parce que pour moi, ça a été un avantage quand même non négligeable. Bon, il faut se le dire, il y avait plusieurs hommes, et pas beaucoup de femmes. Donc, c'est sûr que pour se faire démarquer et signer un contrat de sponsoring, je suis convaincue que ça a aidé. C'était pas juste mon niveau de jeu, c'était surtout, principalement, le fait que j'étais une femme dans un monde d'hommes.
Non, mais pas que quand même. Pas que, mais bon.
Parce que t'avais quand même. Que ça aide.
T'as quand même. Oui, non, mais c'est évident que pour le marketing, forcément que ça aidait, évidemment.
Bien sûr que ça aide quand t'es une femme, quand t'es jolie, quand t'as du caractère et que tu joues bien, forcément, il serait idiot de pas la signer, honnêtement.
Ouais.
Oui, c'est sûr que oui, les deux. J'ai eu la chance aussi parce que j'étais coachée par Gus Simpson et Paul McGriel juste avant le WPT, et eux, ils m'ont vraiment inculqué le tribet, le continuation bet.
C'est
à l'époque, il faut se rappeler que le tribet, le continuation bet n'existait pas à cette époque. C'était pas un mot qui existait. Et d'ailleurs, je me suis fait engueuler, reprocher par des joueurs comme Surinder Sunar, Ali Sharkechik, sur les qui je faisais 3 bets, et ils disaient "You're playing a dangerous game." Ils n'étaient pas contents. Ils voyaient bien que ça n'avait pas de sens, ça sortait des standards de l'époque, donc
Isabelle, excuse-moi, je te coupe, mais parce que ça paraît tellement fou aujourd'hui, 15 ans plus tard, de dire le CBET n'existait pas. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que quel était le bon move alors à la table de poker si on faisait pas un CBET? C'était quoi l'histoire alors?
Alors je crois qu'on jouait vraiment by the book, c'est-à-dire que avant le flop avec un As-10 offsuit, on ne sur-relançait pas. Au bouton avec As-10 offsuit, on collait une relance seulement. C'était interdit, c'était pas une main assez forte pour faire un tribet. Le tribet commençait juste à partir de As-3. Ouais, c'est ça. Donc c'est toutes sortes de phénomènes comme ça. Donc après le flop, on jouait selon ses cartes, quoi.
Mais Guy Sancel le disait.
La plupart du temps.
Guy-Sansen nous le disait la dernière fois quand on l'avait reçu, il nous le disait que les joueurs à l'époque étaient très serrés et très tight, et puis forcément
le mec il a révolutionné le jeu.
Ah, un vrai magicien.
Donc il t'a appris l'agressivité en fait.
Plus loin après. Ouais, exactement. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Donc quand je suis arrivée au WPT, j'ai entre guillemets marché sur tout le monde, j'ai pas arrêté, je faisais des 3 bêtes, des 4 bêtes, des relances, des continuation bêtes, j'arrêtais pas, et ça a été un moment magique hein, ça a été et c'est là qu'on m'a surnommé nos merci et que PokerStars sont venus me signer tout de suite parce qu'ils ont vu voir un cri qui est agressif d'un table. Après, je pense que j'ai pas assez exploité ces capacités dans ma carrière. Je pense qu'il y a eu des erreurs de parcours où j'aurais pu exploiter ça beaucoup plus. En gros, être une meilleure joueuse.
Et c'est dû à quoi?
J'aurais pu être une meilleure joueuse.
C'est dû à quoi le fait que t'aies pas pu se pousser?
Je sais pas. Encore une fois, c'est une succession de choses qui se sont passées. Il y a des moments durs aussi dans le poker, brutal ou excusez-moi ben l'expression, oui. S'en prend plein la gueule. Et ça nous encourage moins à rester aussi agressif quand ça ne marche plus pendant des semaines, pendant des mois, et que les gens maintenant ils payent. Hein, ils les payent les trois bêtes, ils les payent les tapis. Et on sort, et on sort, et on sort. Donc peut-être que ça m'a freiné dans cet élan. Peut-être que bon, à l'époque aussi, on se rappelle, il n'y avait pas de coach de poker, il n'y avait pas de mentor, il y avait pas. Il y a tout un système que peut-être dans une autre période, j'aurais pu avoir plus d'encadrement, étudier plus le jeu, la stratégie, mettre en application d'autres. Je sais pas. J'étais un peu autodidacte, tout seul dans mon monde, dans ce parcours. À l'époque, on était tous seuls, même si on était des équipes PokerStars, il n'y avait pas derrière un coach pour les joueurs de PokerStars. Physiquement, c'était pas la même non plus. On ne faisait pas du sport en équipe pour se préparer, donc on faisait quoi. Il y a beaucoup qui picolaient à la table, on ne mangeait pas bien. Donc, bon, c'était pas optimal, c'est sûr, depuis des années 2000. Après, ça a beaucoup changé.
Mais pourtant dans le documentaire de Das Poker, on te voit beaucoup faire du yoga. On te voit aussi avec un coach mental, à un moment où il parle avec toi dans les couloirs du Rio, si mes souvenirs sont bons. Oui. Et tu avais quand même un peu d'avance déjà.
Ouais, c'est vrai que j'ai eu des époques mieux que d'autres, et donc cette année-là, ça a été une super année pour moi, où j'avais une discipline de vie, une hygiène de vie fantastique, je faisais du sport, je faisais du yoga, j'ai pas bu d'alcool pendant 6 mois, j'étais vraiment dans une de mes périodes au top de la santé, j'aurais dû l'être comme ça pendant mes 15 ans de poker. Malheureusement, ça n'a pas toujours été le cas, parce qu'il y a plein de soirées, des moments, des tables de restaurant, des amis, des sorties, il y a plein de choses, mais bon, ça fait aussi partie de la beauté de ce jeu dans lequel on a voyagé quand même en solitaire. Et donc c'est toujours agréable de se retrouver avec des amis un peu partout dans le monde, et voilà quoi.
Isabelle, juste avant d'accueillir Fabrice qui est déjà en ligne et qui t'écoute, juste ma question sur les vocations, parce que j'y tiens, est-ce que tu penses que tu as été une sorte d'idole pour des nanas qui se sont dit regarde, il y a Isabelle Mercier, donc nous aussi on va se mettre au poker, nous aussi on va aller dans ce monde qui a priori est un monde d'hommes? Est-ce que tu penses que tu as réveillé ça chez certaines femmes?
Moi, je pense que oui, forcément, comme moi aussi, j'ai été influencée par des joueurs de l'époque, donc qui jouaient avant que je devienne joueuse, même si c'était des gars, ça influence quand même. Donc oui, il y a eu ça, ce niveau-là, et il y a eu un niveau beaucoup plus grand que je ne suspectais pas. J'ai sorti mon livre, donc qui s'appelle Profession Bluffeuse, et qui retrace ce parcours, donc d'une femme dans un monde d'hommes de poker. Et le message de ce livre, c'est suivez vos rêves. C'est pas aller jouer au poker, c'est le fun, c'est suivez vos rêves. Et j'ai eu beaucoup de retours sur ce livre, des gens qui m'ont écrit, carrément, ils ont changé de carrière. Ils ont arrêté de fumer, ça les a motivés à prendre des décisions, à faire des changements dans leur vie. Et ça, c'est ce qui me touche le plus en bout de ligne, parce que forcément, ça a été des changements positifs. Je ne m'attendais pas à avoir ce genre d'impact. Je ne vous parle pas de millions de lettres, hein, mais bon, quelques retours qui m'ont fait chaud au cœur.
Ah bah c'est très bien.
On va marquer une toute petite pause. Isabelle, reste avec nous. On revient tout de suite. Fabrice est là. Vous allez vous saluer. Il va y avoir une transition entre vous et puis il va réagir à ce que tu viens de dire. On revient tout de suite dans le RMC Poker Show. Isabelle Mercier nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Et Fabrice Soulier arrive dans une petite minute. À tout de suite.
Jusqu'à 1h, c'est RMC Poker Show.
Daniel Riolo et Mundir.
Voilà, on est de retour dans le RMC Poker Show. On est en ligne depuis tout à l'heure avec notre invitée, l'une de nos invitées ce soir, Isabelle Mercier, ancienne grande joueuse de poker que tout le monde connaît. Si vous écoutez le RMC Poker Show, vous ne pouvez pas ignorer et ne pas savoir qui est Isabelle Mercier. Et nous rejoint quelqu'un qui la connaît très très bien.
Mais il a sa carte ici.
Lui, le RMC Poker. En revanche, oui, c'est vrai, on disait Isabelle Mercier, mais n'était jamais venu dans le RMC Poker Show.
Il a sa chaise, il a sa carte.
Il est beaucoup plus habitué. Salut Fabrice.
Salut Fabrice.
Salut Fabrice.
M'entendez bien ?
Très bien.
Oui, on t'entend très bien. Bienvenue dans le RMC Poker Show. Donc, tu étais là avec nous, tu as entendu les réponses et tu as entendu évidemment qu'Isabelle Mercier est avec nous ce soir. D'abord, je sais que vous vous connaissez très bien, donc je vais vous laisser vous saluer. Peut-être tu voulais réagir à ce que tu avais entendu des années qu'elle nous racontait et que tu as vu de près.
Malheureusement, ça me fait hyper plaisir de revoir, j'allais dire, d'entendre Isabelle. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Salut Isabelle, déjà. Bonjour.
Salut Fabrice, comment tu vas ?
Salut. Mais malheureusement, j'ai entendu que les dernières phrases. Donc, j'ai entendu que les dernières phrases sur le bouquin et j'ai pas entendu ce qui s'est passé avant et ce qui s'est dit avant. Donc, je suis désolé.
Elle a dit que des choses bien sur toi. Voilà.
Non, on parlait.
Il y a pas mal de choses bien sur elle aussi. Pardon.
Oui, on parlait des années. Vous avez été sur le circuit ensemble, Fabrice. Alors toi, au contraire d'Isabelle, tu as évidemment continué ta carrière. Et d'ailleurs, il faudra qu'on fasse le point avec toi. Où est-ce que tu en es en ce moment? Mais sans qu'elle ait des regrets, il y avait parfois chez elle, elle nous disait, une pointe de nostalgie pour ces années-là. Et je ne sais pas si toi, tu partageais ce sentiment, en fait.
Mais grave, bien sûr, c'était les meilleures années poker. C'était des années magnifiques. C'est sûr que les années qu'on a connues, notamment avec Isabelle, et puis Isabelle, moi, quand on s'est rencontrés, quand on a fait un petit bout de chemin ensemble, notamment par Zest Poker et même avant personnellement, ou autour de cette époque ou cette période-là, c'était une superstar. Moi, j'étais un bon joueur de poker, mais je la regardais évoluer. C'était vraiment une star du moment, quoi. Donc
le souvenir que j'ai de toi, Fabrice, ça remonte à bien avant ça. Au début, c'est à l'ACF. Donc, toi, tu étais une jeune étoile, oui, montante du cercle français. Et à l'époque, c'était des toutes petites tables. Hein, si je me souviens bien, c'était des tables à 50 euros. C'était le début. Et tu étais là. Tu étais un des avenirs français. Et moi, je bossais encore à l'ACF à l'époque. Et donc, ça remonte à loin. On remonte 20 ans en arrière.
Oui, tout à fait. C'était même pas en euros, d'ailleurs.
Isabelle, juste avant de te libérer, de te remercier d'avoir été avec nous, il y a deux choses qui sont liées effectivement à ce fameux dog dont on a beaucoup parlé. À un moment, quand tu arrives et des questions que ça entraîne chez moi, tu arrives à la table finale et tu dis, t'étais vraiment pleine d'émotions. Tu dis, c'est le plus beau jour de ma vie. Est-ce qu'encore aujourd'hui, 15 ans après, ça reste le plus beau jour de ta vie quand tu te mets à cette table finale qui se terminera par une cinquième place et 175 000 dollars et tu ressors effondré, déçu parce que tu voulais aller plus loin?
Oui, c'est ça. Je suis pas effondré, déçu parce que je voulais aller plus loin, je suis effondré, déçu parce que j'ai fait un très mauvais bluff qui m'a coûté potentiellement la victoire de ce tournoi. Donc non, ce n'est vraiment pas le meilleur jour de ma vie, surtout que j'avais fait le même erreur sur le même bluff 6 mois avant. Parce que là, on est au début du tournoi. Je suis convaincue que je vais gagner. Mais après avoir fait un mauvais bluff, et c'était la deuxième fois, la même année, à l'EPT de Deauville, la même année, j'ai fait le même mauvais bluff, en finale. Donc, ces deux bluffs m'ont coûté potentiellement deux victoires. Et je m'en veux encore aujourd'hui. Je m'en suis voulu, mais combien de fois je dois faire cette erreur avant d'arrêter de la faire?
Il est beau, ce jeu.
Malheureusement, on va pas souvent en finale. Donc, mais bon, c'est un très beau souvenir quand même.
Et il y a une autre chose, et c'est ma dernière question, il y a une autre chose que tu dis toujours dans pas mal d'interviews, que tu disais en tout cas à ce moment-là. Tu dis, mais moi j'ai joué au poker, il y a même un Américain dans un média, je sais plus lequel, qui te dit le poker et tout, et tu dis, mais moi j'ai commencé à jouer à 3-4 ans et tout. Alors je sais pas si tu as des enfants aujourd'hui, mais si tu en as ou si tu penses en avoir, tu penses que tu vas les mettre au poker quand ils auront 3-4 ans?
Oui, je n'ai pas d'enfant aujourd'hui, donc si je pense en avoir, il faudra que je fasse vite, mais définitivement, il faudra que je me dépêche, mais oui, je les mettrai au poker parce que je pense que c'est une discipline qui est complète, qui permet de réfléchir à plein niveau. D'ailleurs, pendant le confinement, j'ai fait du ménage, j'ai retrouvé mes journaux intimes dans lesquels je pars de mes premières parties de poker, que j'avais gagné $1, j'ai fait une colonne là-dessus dans les récents Poker 52, et c'est magnifique de retrouver ces journaux et de voir le plaisir que j'avais à jouer. C'était les meilleurs moments de ma vie, c'était le samedi soir quand on jouait au poker.
C'est super.
Merci beaucoup Isabelle, merci d'être venue dans le RMC Poker Show.
Merci beaucoup.
Merci à vous de l'invitation. Salut Fab, ouais, on t'appelle. Bonne fin d'émission à tous.
Salut champion.
Merci Isabelle, c'est un vrai plaisir de t'avoir enfin dans le RMC Poker Show après toutes ces années. Fabrice, maintenant, on est avec toi. Il y a longtemps que tu n'étais pas venu dans le RMC Poker Show. J'ai essayé de me souvenir la dernière fois. Est-ce que ce n'est pas quand avait été lancé ce championnat du monde par équipe je ne sais plus comment ça s'appelait d'ailleurs.
Oui, qui était par M. Dreyfus.
La Global Poker League, oui, avec Alex Dreyfus.
Eh oui.
Oui, oui, ça devait être à ce moment-là. Donc, il y a longtemps, quand tu n'as pas eu de nouvelles de toi, où tu en es avec cette période? Parce qu'on sait évidemment que tu as été plus un joueur de live que online. Avec la période qu'on traverse, bon, ben, on joue plus. Tu en es où, toi, de ta carrière de poker? T'es toujours à fond dedans? T'es en retraite? Et qu'est-ce que tu comptes faire, là?
Ben moi, j'ai eu deux enfants, voilà, déjà.
Bravo, félicitations.
Félicitations.
non, mais voilà. Donc, ça met pas mal de choses en sommeil, j'ai envie de dire. Et puis, ouais. Et puis, c'est vrai que, bah oui, parce qu'on est obligé de faire. Moi, j'ai envie de m'occuper de mes enfants. J'ai la chance d'avoir gagné pas mal de pognon grâce au poker, justement. Donc, je peux me permettre de rester à la maison. J'ai pas besoin de travailler un boulot de 8 à 17 heures comme tous les gens le font. Enfin, je commence à me poser. Je fais d'autres choses. Je fais des activités immobilières, etc. J'ai une activité financière quand même qui continue. Mais le poker est clairement en sommeil en ce moment, oui, dans ma vie. Donc,
Sans manque pour toi. C'est le cours de ta vie qui t'a éloigné finalement des tournois, des tables et de cette ambiance que tu connais maintenant depuis plus de 20 ans.
C'est plus une obligation, en fait, parce que c'est très compliqué aujourd'hui le poker. Vous en parlez souvent avec Pierre, notamment avec Mounir, avec toi, mais toi aussi Daniel. Vous connaissez bien le jeu. Vous savez qu'aujourd'hui, pour être compétitif à haut niveau dans le poker, il faut mettre des heures avec des solveurs, des machins, étudier les mains, les relire, les répéter, les passer des heures devant un computer, même en période de confinement, les mecs travaillent. Donc, moi, j'ai fait le choix de laisser tomber quelque part cette discipline-là, trop prenante, chronophage. Je me réserve le bonheur d'aller à Las Vegas pendant les World Series quand ils auront lieu, s'ils ont lieu à nouveau, et évidemment, mais surtout en mixed games. En fait, ce qui me manque, c'est les parties de mixed games, moi. Voilà, donc et là c'est vrai, quand on fait le bilan online de ce qui se passe, c'est beaucoup de no limit hold'em tout le temps. Ouais, alors bon, j'ai fait encore quelques tournois, je crois que j'ai joué deux dimanches en 6 mois, donc c'est pour vous dire la fréquence à laquelle je joue en ce moment, c'est vraiment très très peu. Mais aujourd'hui, non, ça me manque pas.
Aujourd'hui,
le poker online ne me manque pas. Pas du tout, moi.
Il y a Isabelle, tu vois, qui disait qu'elle s'était mise au poker chinois en jouant de la crypto-monnaie. Et avec mes recherches, si tu veux, moi, j'ai vu qu'il y avait des tournois aussi de poker où il y a des gens qui jouent avec le bitcoin. Tu vois, crypto-monnaie, bitcoin. Est-ce que toi, est-ce que tu es là-dedans? Est-ce que tu fais du bitcoin? Est-ce que tu fais de la crypto-monnaie?
C'est un sujet qui te passionne, nous dire le bitcoin.
Ah, mais moi, écoute, attends, je suis tombé dedans. En plus, je peux te dire que j'ai un ami à moi qui a fait fortune là-dedans avec la crypto, et je peux te dire que c'est monstrueux.
C'est pas mytho, ce truc-là. Mais
il a ouvert un casino de crypto-monnaie et de trucs, et c'est de la folie. Donc, et c'est effectivement, il y en a qui font même des paris sportifs avec de la crypto et du bitcoin. Donc, effectivement, il y a énormément de genres de poker.
Pardon. Effectivement, tu ne crois pas bien dire, parce que moi je suis assez passionné par ce milieu des cryptocurrencies et tout aussi, depuis maintenant 3-4 ans, donc j'étudie pas mal le sujet, donc oui, j'ai investi un petit peu, je considère ça comme un investissement. Après, c'est très compliqué de faire du trading, parce que c'est quelque chose de particulier, de très professionnalisé aussi, donc on ne peut pas se battre contre les traders professionnels, mais c'est intéressant de voir cet écosystème évoluer. Je trouve qu'il y a un vrai futur. Bon, après, c'est effrayant aussi par certains aspects, comme la robotique peut l'être, ou l'intelligence artificielle peut l'être aussi, mais par rapport au contrôle que ça peut, enfin bon, il y a différentes zones, mais c'est assez intéressant. Donc oui, ça c'est quelque chose qui pourrait me rapprocher peut-être du poker online, si je trouvais une plateforme avec qui joue, sur laquelle on joue en bitcoin, ça pourrait.
Ah bah voilà, Moundir, t'as trouvé un client, monte ta plateforme, t'as Fabrice Soulier comme premier joueur là, voilà. Tu vas monter ton business, tu vas monter une plateforme de crypto-monnaie.
Je sais qu'il en existe, peut-être que j'aurais dû moi-même participer à l'élaboration d'une de ces plateformes. Ça aurait peut-être été smart de ma part de le faire. Mais bon, voilà, j'ai plus trop de velléité à trop travailler ou trop. Enfin, j'ai d'autres projets en fait. Donc, voilà. Donc.
Fabrice, on parlait tout à l'heure avec Isabelle de sa carrière qui a été plus courte chez elle que chez toi. Toi, tu as continué longtemps et tu soulignes, et beaucoup de joueurs soulignent que c'est dur de rester au niveau parce que ça évolue très vite ce jeu, parce que les joueurs travaillent de plus en plus. Est-ce que tu t'es déjà, toi, dit, à l'image de ce qu'on dit d'un sportif de haut niveau, qu'il y a une autonomie pour être au top niveau dans le poker et qu'on peut l'être pendant, je sais pas, 4, 5 ans, 6 ans, mais qu'au bout d'un moment, ça demande de tels efforts de remise en question, de concentration, de vie qui doit être consacrée qu'à ça, qu'on peut pas être bon tout le temps. T'as déjà pensé à tous ces aspects-là d'une carrière?
Mais moi, j'ai énormément pensé, puisque moi, j'étais l'un des premiers, Isabelle aussi, mais j'étais quand même l'un des premiers à faire du yoga dans le poker. Quand je faisais du yoga au début dans le poker, un peu de méditation, en 2006, 2007, 2008, dans ces années-là, on me prenait pour un extraterrestre. On pensait que je faisais partie d'une secte. Enfin, je le disais pas, d'ailleurs. Non, mais clairement, c'était, voilà, je le disais pas, d'ailleurs, je le faisais chez moi, c'était mon truc, bon, c'était mon jardin secret. Aujourd'hui, clairement, les mecs ont compris qu'ils faisaient pas de la méditation, avant la grosse partie, du yoga, des étirements, des exercices de respiration, etc. Ils ne pourraient pas être au top de la compétition. Et ça, en plus, évidemment, de travailler leurs mains avec les solveurs et tout le reste. Et donc, oui, c'est sans cesse se remettre en question. Et moi, je me suis évidemment aperçu, il y a 2-3 ans, que je ne pourrais pas rester au top niveau mondial et que j'étais déjà probablement dépassé en No Limit Hold'em parce que je n'avais pas travaillé mon jeu, justement, d'un côté très théorique, à la maison, devant les feuilles et devant les ranges, etc.
Si demain... Donc, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, pardon. Ouais. Pardon, non, fini. Ah ben, en fait, je voulais te poser une question, Fabrice. Si demain une room t'approchait, justement pour avoir ton expérience, pour conduire aussi et mener une team de joueurs, est-ce que tu accepterais? Ou alors c'est définitivement. Définitivement.
Bien sûr. Ah non, mais moi j'adorerais le côté mental et le côté coaching tel que le fait mon grand ami Stéphane Matteau. Moi j'adore. On échange souvent. J'ai habité avec lui, donc on a beaucoup échangé sur le sujet aussi avec Pierre et Stéphane. Et j'adore ce côté coaching. Après, je suis pas du tout à leur niveau en termes de coaching, etc. Mais en tout cas, effectivement, j'ai plus d'expérience qu'eux en termes de poker. Donc oui, c'est quelque chose qui pourrait m'occuper de jeunes qui montent. Effectivement, oui, ça pourrait me plaire et voir me passionner. J'adore ça.
En tout cas, Fabrice, on le sait, tu es un des pionniers du poker en France. Je vois que les années passent, mais finalement, on ne se coupe jamais de ce milieu. Tu restes proche et marqué à vie par toutes ces relations qui se sont construites au fil des années, tous les joueurs dont tu parles, et même les plus jeunes finalement, les plus jeunes pour qui tu as été un modèle, qui continuent leur carrière sous tes yeux. Quoi. C'est une grande famille un petit peu.
Ah oui, c'est une grande famille, c'est une grande passion, c'est un jeu merveilleux. Et puis je pense que c'est un jeu qui nous quittera jamais. Maintenant, j'espère que ça va pas évoluer trop sur un côté robotique entre guillemets. Voilà, c'est ça qui me fait un petit peu peur, qu'avec le No Limit Hold'em soit poussé tellement à l'extrême qu'il en devienne chiant, quoi, entre guillemets. Parce que moi, j'aimais bien le côté un peu exotique qu'avait le poker dans les années début des années 2000 jusqu'à 2013, 2014, 2015.
Le côté un peu aventure, Fabrice. Le côté un peu aventure, ouais. Presque, on pourrait dire romantique quelque part.
Absolument, côté cowboyesque, romantico, ouais. J'aimais ça, le côté psychologique plus que le côté purement technique. Voilà. Donc.
Est-ce que Claire, ta femme, continue à jouer au poker et d'ailleurs que tu salueras très fort, bien sûr.
Bien sûr, elle vous embrasse.
Écoute, c'est fait. Est-ce qu'elle continue à jouer au poker? Parce que c'est une super joueuse aussi.
Non, on est dans la même barque, c'est-à-dire qu'on a complètement laissé tomber, mais ça nous manque, on en parle souvent, on dit « Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais aller à Vegas, qu'est-ce que ça me manque, les virer avec toi ?» Mais c'était des années merveilleuses, on n'avait pas de... Enfin, moi, je me considère encore aujourd'hui comme un nomade, mais là, on était nomade au plus...
T'étais un vrai.
J'ai pas eu de maison pendant 2 ou 3 ans, j'avais pas de maison, donc on passait d'hôtel en hôtel et puis même quand j'avais une maison, j'habitais dans ma maison 3-4 mois par an, et le reste du temps j'étais dans les hôtels, donc c'était fantastique. Enfin, c'était fantastique, il faut aimer ça. Aujourd'hui avec des enfants, c'est plus faisable.
Effectivement. Il arrive toujours un moment, Fabrice, où on se range et on regarde tout ça comme un album photo. Et est-ce que dans cet album photo, pour finir l'entretien ensemble et te remercier d'être venu, est-ce que dans cet album et dans cette vie, tu as forcément un coup que tu vas nous raconter, un des coups qui t'a le plus marqué? Tu as ça en stock? Est-ce qu'on peut lancer le jingle, le coup d'une vie pour toi? Est-ce qu'on peut le faire?
Chaque dimanche, dans le RMC Poker Show,
c'est le coup d'une vie.
Allez Fabrice, on t'écoute.
Non, mais quand Jérémy m'a posé la question là sur le coup d'une vie, je crois que j'en ai rencontré déjà pas mal, et je pense que j'ai jamais parlé d'une de mes parties mémorables
en fait, pourquoi est-ce que je vous racontais ce soir, c'est pourquoi je, comment, pourquoi et comment je me suis soigné de mon addiction entre guillemets aux jeux de casino. Parce que moi, j'aurais pu être un joueur de casino et j'aurais pu être ruiné du coup, parce que je pense qu'on peut pas gagner au casino. Ah ouais. Voilà, donc ça, c'est vraiment le conseil que j'ai toujours donné.
Dédicace au plus. Dédicace au casino. Non,
c'est toujours le premier conseil que je donnais aux jeunes joueurs de poker, c'est quand vous démarrez votre carrière de poker, si vous êtes des joueurs de casino en parallèle, vous êtes mort. Voilà, bon, voilà. Ah ouais. Donc je le répète encore une fois, faites très attention au casino, c'est un piège à con. Voilà, donc moi ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, c'est en 2002, je crois, 2001-2002, il faudrait vérifier la date, mais on était parti à Tunica avec Michel Abécassis, que vous connaissez tous, je crois, si vous écoutez le RMC Poker Show régulièrement, et nous étions partis avec notre petit baluchon, et à l'époque, il y avait très peu de tournois dans le monde, donc on était partis avec nos 10 ou 15 000 dollars, ou 12 000 dollars, c'était déjà un joli petit budget, ah bah. C'était une série de tournois assez conséquents et tout, et on fait nos 15 jours de tournois, et on s'est massacré par les Américains, tous les deux, on s'est pilonné pendant 10-12 jours, et je crois qu'on restait 12 jours, on restait 15 jours, et au bout du 12e jour, moi, il me reste 700 dollars, et lui, il est broke, quasiment broke. Et on avait pris, justement, pour, comme une petite routine, de jouer tous les soirs au craps, comme ça, de faire notre petite partie de craps. Et je pense que, l'un dans l'autre, j'avais dû perdre 3-4 000 balles au craps, sans m'en apercevoir, comme ça, tout doucement, machin, par coup de 200-300 balles le soir, voilà, en 10 jours, ça va vite, hein, le calcul est vite fait. Et malgré tout, le dernier jour, je m'inscris, là où l'avant-dernier jour, donc, enfin, deux, trois jours avant le départ, je m'inscris au dernier tournoi. C'est un tournoi à 500 balles. Il y avait Phil Ivey qui le jouait à l'époque. Je me suis retrouvé en finale de ce beau tournoi. Donc, l'histoire finit bien quand même, puisque je me suis retrouvé en finale de ce tournoi avec Phil Ivey. J'ai fini deuxième du tournoi. C'est pas lui qui a gagné. C'est un cowboy texan. Je me souviens avoir perdu à 3 contre As 2 pour tous les jetons. J'aurais pu gagner ce tournoi, mais je l'ai perdu. Mais j'ai quand même gagné 63 000 $. Donc, c'était exceptionnel. Donc, je reviens avec 63 000 $. Je sors de la partie, Michel qui se réveille, waouh, c'est génial, on avait swappé 10%, donc il est content, il a gagné ses 6 ou 15%, donc il a gagné ses 6 ou 9 000 balles aussi sur le swap, il est super content, on est enchanté tous les deux. Et là, évidemment, qu'est-ce qu'on fait? On se fait un bon dîner, bouteille de vin, et on repart au craps.
Oh non!
Ah non, pas ça!
Bah oui, parce que là, on est frais tous les deux, on est mieux, d'accord? On est mieux, on est remonté, moi j'ai pris mon gros chèque et tout. Et donc là, dans la soirée, on a joué, je crois, dans mon souvenir, on a joué très longtemps, genre 20 heures, sans dormir.
Oh, 20 heures au craps!
Mais je crois, un truc de dément jusqu'au lendemain matin au déjeuner, on a dû aller se coucher, il était 11h du mat ou midi, enfin bon. Et j'ai perdu 5 ou 6 000 dollars au craps.
Oh
ce soir-là, rien qu'en en une soirée. Et le lendemain matin, je me réveille, et là, j'ai eu ce flash. Je me suis dit, Fabrice, si tu veux être sérieux au poker, si tu veux être sérieux dans ta carrière de joueur, il faut que tu arrêtes ce jeu complètement, parce que c'est trop, trop marrant, c'est trop drôle, c'est vraiment une drogue, ce truc. C'est vraiment une saloperie, parce que c'est vraiment fun de jouer avec des copains. Et depuis ce jour-là, voilà, je me suis dit, si je veux être un joueur sérieux de poker, j'arrête de jouer complètement au casino. Donc, je me suis fait des paris, des garde-fous dans ma tête assez violents, en m'imposant des trucs assez violents. Voilà, ça, je vous conseille de le faire aussi si vous êtes un peu addict au jeu, au casino, parce que le poker, j'exclus complètement le poker de cette catégorie-là, attention. Hein.
Ah, d'accord.
Je parle de jeu de casino.
D'accord.
Et voilà, et depuis ce jour-là, j'ai plus jamais lancé un dé ou joué 10 dollars au craps de ma vie, et je m'en porte très très bien.
Voilà. D'ailleurs,
ça a été un vrai réveil.
Michel est un excellent joueur de craps, je peux en témoigner.
Oui.
Merci beaucoup, Fabrice.
Merci, Fabrice. Merci voilà. Infiniment.
Merci beaucoup d'être venu dans le RMC Poker Show. À très bientôt. À très bientôt.
Bonjour à tout le monde.
Moundir, ouais, marque une mini pause. On revient. Pierre est déjà là. Il nous attend. On va jouer. À tout de suite.
Jusqu'à 1h, c'est RMC Poker Show.
Daniel Riolo et Moundir.
Voilà, c'est la dernière partie du RMC Poker Show. Les amis, Moundir, on est là ensemble. Maintenant, place à Dans la tête d'un fiche. Et qui nous rejoint pour Dans la tête d'un fiche? Le moins fiche d'entre nous, le pro, le magnifique, le beau, Pierre Calamusa. Salut Pierre.
Salut Pierre.
Salut Moon, comment va?
Salut mon poteau.
Il est là, notre ami Shark, qui va nous manger tout cru.
Eh oui, il est en train de grinder.
Bon, on le dérange pendant son grindage du dimanche? Pas encore. C'est...
T'as pas encore ratissé
large, petit requin.
Ça va arriver bientôt là.
Ah d'accord.
Bon, est-ce que Jérémy, autre fiche s'il en est, est avec nous pour nous faire jouer à Dans la tête d'un fiche? Jérémy, ça va?
L'énorme fiche est là.
Ah, il est là,
Oui. Eh bien écoute, petit jingle Dans la tête d'un fiche.
Allez,
alors,
go!
RMC Poker Show,
Dans la tête d'un fiche.
Bon, les amis, pour commencer, grande nouvelle, il faut que vous le sachiez, nouveau confinement, je me suis remis à jouer.
Ah
non.
Eh oui, j'avais arrêté. J'avais arrêté parce que machin, tout ça. Et puis là, de nouveau les week-ends on est à la maison, machin. Et ça fait donc week-end dernier 3-4 parties ce week-end. Alors le retour quand ça fait 2 mois qu'on n'a pas joué, 3 mois. C'est très très dur. L'acceptabilité des phases de jeu, de prendre des mauvais coups ou pas. Je te jure devant l'ordinateur, mais j'étais pas du tout calme. Quoi. Je voulais jouer beaucoup trop de mains. Pourtant, je le sais tout ça. Hein. On a beau se le répéter. Ce qui est fou, Pierre, c'est qu'on a beau se répéter 1000 fois les trucs à ce jeu et les savoir, mais on fait tout le temps les mêmes conneries. Putain, tu veux pas me dire donner un truc pour arrêter de faire les mêmes conneries? Bon. L'impatience, tu sais, quand ça fait longtemps que t'as pas joué, et bim, tu t'enflammes, tu veux jouer toutes les mains dans tous les sens. C'est fou ça, hein, je m'en suis voulu.
Ouais, je pense qu'il faut vraiment essayer de se mettre dans de bonnes conditions pour jouer, c'est-à-dire te mettre une, tu sais, je sais pas, éliminer par exemple les distractions extérieures, pas avoir la télé en même temps, pas avoir un truc sur l'ordi, une série en cours, pas avoir, je sais pas, à cuisiner ton plat, des choses comme ça, tu vois. Plein de petits trucs comme ça qui peuvent
faire. Ah bah non, mais moi vendredi, je regardais Koh-Lanta en même temps, moi. Je regardais Koh-Lanta en même temps.
Tiens, la
poucouse. Ça va, bien focus, quoi, bien concentré, droit vers l'objectif. Non, c'est important de te dire mentalement. Là, je suis là pour donner le meilleur de moi-même et ma session est partie et je suis pas en dilettante en faisant 2000 trucs en même temps.
J'étais pas dilettante, sauf que j'avais pas de patience parce que je voulais jouer toutes les mains, je voulais trop jouer.
Mais non, mais c'est pas
et
comme
ça. Et puis alors,
je vais donner le meilleur de moi-même.
Bah ouais, c'est ce que j'ai essayé. Et puis après, quand ils ont sorti Alix de Koh-Lanta, là, j'ai fait quelque chose. C'est la meilleure et la sorte. Qu'est-ce que tu fous, Mounir? Comment ça se fait, ça?
Ils ont fait un plan de licenciement, hein, comme tu sais où, hein, mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, Koh-Lanta. Koh-Lanta, c'est
génial. Bon, les amis, on va plus avoir de temps, là, pour jouer, donc il faut y aller. Allez, Jérémy.
Allez, messieurs, ce soir, on est à Dublin, une ville que vous connaissez tous.
Ah bah oui.
On joue le High Roller de l'EPT à 25 000 $. On est en TF. On est assuré de 65 000 $, mais il y aura 500 000 pour le vainqueur.
C'est beau.
Ah, tout le monde affole. Tout le monde affole et on est au bouton avec un stack de 4,2 millions au blind 75 000, 150 000. Ça fait une trentaine de blindes. Et on ouvre une jolie paire de dames. Oh. Dame de pique, dame de cœur. Messieurs, on fait combien? Je rappelle les blindes.
J'ai pas entendu où est-ce qu'on était à la table, nous.
On est au bouton.
Au bouton, tu as dit. On est au bouton. On est au bouton.
Blind 15 000. Deux dames, blind 75 000, 150 000.
Ah bah écoute. Allez, Daniel, tu nous ouvres un petit peu.
Oh, bah voilà, franchement.
Paire de cul,
là,
tu fais quoi?
Un truc assez classique, quoi, là. Je vais faire un 330 000.
Une petite Beethoven. Voilà, une petite Beethoven. Moi, je mets 400. Je mets un petit 400.
Ah, pourquoi plus que.
Que
2,5.
Parce que j'ai envie de faire croire que j'arrache. Voilà.
Le coach, qu'est-ce qu'il dit?
Très bien.
Ouais, entre 2 et 2,5 fois la grosse blinde me paraît parfait.
Non. Bon, on a fait 325 000. Et là, la petite blinde qui a un tapis de 7 millions. Nous, 3 bêtes, à 530 000. La grosse blinde s'en va. Et c'est à nous. Je vous écoute.
Daniel.
Il reste combien de joueurs là pour la fin du tournoi?
On est à HU là. On est à HU.
Comment ça on est à HU?
Bah, on est en tête à tête là pour l'instant.
La fin du tournoi, on n'est plus que deux là?
Non, pas du tout. La petite.
Non, je t'ai demandé combien de joueurs il restait encore dans le tournoi.
On est 6 joueurs encore.
On est 6 joueurs.
Mais nous, ça revient à nous, personne n'a parlé encore. Donc on ouvre les dames.
Ça,
on est
j'ai
au
bien
bouton.
Compris, c'était pour savoir combien on était
la
encore.
La petite blinde, nous 3 bêtes à 530 000. À 630 000, pardon.
Attends, excuse-moi.
Ouais.
On avait ouvert à combien? Ça me paraît fou.
325. On a ouvert à 325 000.
Il fait
325 000, il fait 650 000.
Non, c'est pas possible.
Si?
Je
suis tenté.
La grosse blinde s'en va et c'est à nous.
C'est une bêtise de faire tapis là?
Bah, t'as 30 blindes.
C'est une bêtise, Pierre, de faire tapis? Moi j'ai envie de faire tapis là en fait.
Ok, tu veux boîte?
Ouais.
Ah, moi j'ai envie de le 5 bêtes. Moi j'ai envie de le 5 bêtes. Excuse-moi. Je le 4 bêtes à. Je fais 2 millions 100. Là, je lui montre que je vais.
Pierre.
On a 30 blindes au début du coup.
Ouais.
Ouais.
Donc en fait, on fait 2 blindes, 2,2 blindes, il nous fait 4,4 blindes en ce moment.
C'est ça.
C'est ça. Déjà, c'est bizarre, tu dis ce qu'il fait.
Ouais, bah en fait, je connais la main et ça m'étonnerait fort que les sizing soient bons.
Ah, tu connais la main?
Ouais, je connais la main.
D'accord. Bon, alors dis-moi si tu connais la main. Bah, le problème, c'est qu'il connaît toujours toutes les mains. Alors Pierre, dis-moi simplement si faire tapis, c'est absurde.
C'est leur métier.
Dis-moi si faire tapis,
c'est absurde. Non, je pense que là, en fait, avec des tailles de mise qui sont aussi bizarres, on va dire 2.2, 4.4 de la small blind, normalement, on aurait plutôt un 3-bet qui se situe entre 6 et 8, et 8 blindes. Là, ça m'étonne fort qu'il ait min-raise hors de position contre un raise au bouton. Puisque je connais le joueur en small blind et je connais le joueur bouton que j'ai beaucoup joué. Je dirais que là, le mieux, c'est quand même, si les sizings sont bons, ça serait de 4 bets à peu près à 9 blindes, quelque chose comme ça. Ça serait bien.
D'accord. Ok.
Bon, bah, disons que c'est pas bon avant. En tout cas, on a décidé de 4 bets à 1 200 000 jetons. Donc, effectivement, c'était peut-être pas bon avant. On 4 bets à 1 200 000 jetons et après 20 secondes de réflexion, notre adversaire décide de payer. Le pot, il fait 2,5 millions. On a encore 3 millions derrière.
C'est beau.
Et le flop vient 8 de pique, as de carreau, 8 de cœur, check de la petite blinde. Et c'est à nous de parler.
Bah là, c'est très emmerdant de voir cet as. Parce que
on n'a pas envie de le voir. Fait,
forcément, on le met dans sa range. Il y a quasi que des as. Donc là, je m'en veux parce que finalement, je me dis si j'avais fait tapis.
Il n'aura jamais collé avec as-valet.
Peut-être qu'il n'aurait pas collé et tout. Donc peut-être que le tapis était la meilleure option.
As-dame, as-roi. Et encore même as-roi. Non, parce que as-roi, il revient dessus. Moi,
je suis dans la merde parce que lui, il a checké. Donc là, en fait, je vais faire un truc. Je vous dis ce que je fais. Hein.
Vas-y.
Bien. C'est certainement pas bien, mais sur les 2,5 millions, moi, je vais faire une mise pour qu'il me dise ouais, j'ai l'as ou que lui, il ait peur que moi, je l'ai.
Mise d'information, quoi.
Voilà, donc là, je vais mettre sur les. Il y a 2,5 millions. Je vais mettre un petit peu plus de la moitié.
Ok. Bon,
moi, je décide, quoi qu'il arrive, de jouer le coup jusqu'au bout.
Mais je check pas, en tout cas. Moi, je check pas. Je veux savoir quelque chose.
Moi, sur les 3 millions qu'il y a dans le pot, hein, c'est bien ça.
Non, c'est 2,5 millions.
2,5. Je mets juste 900 000 pour l'exciter. Et s'il chauffe, je colle. Voilà, je te dis tout de suite.
Pierre.
Là, je pense qu'il y a deux options. Soit on peut miser un quart du pot avec toutes nos mains, puisque moi, je suis pas d'accord avec Daniel. Je pense qu'il y a pas beaucoup d'as.
Je veux que tu m'enregistres celle-là.
Je suis pas d'accord avec Daniel. Je pense qu'il y a vraiment pas beaucoup d'as.
Bah, pourquoi il y a pas beaucoup d'as dans sa range au mec? Pourquoi?
As-roi, il fait tapis. S'il avait une main comme As-5 dépareillé, avec laquelle il aurait tenté d'arracher, il aurait pas payé notre sur-relance avant le flop. Donc pour moi, il reste vraiment que typiquement As-10 pareillé, As-Valet et As-Dame. Et avec As-Dame, peut-être qu'il aurait fait tapis avant le flop aussi. Et en plus, on bloque ces mains-là. Donc pour moi, voilà, ça...
Non, mais il peut avoir les Valets, il peut avoir les Rois, un truc comme ça. Et dans
non,
ce cas-là,
les Valets, les Rois, si... je pense qu'il n'est pas...
Non, ça boite.
Les Rois, il fait tapis pré-flop. Il fait tapis pré-flop, je pense.
Il fait tapis pré-flop sur notre ouverture.
Ah bah moi, bah non, parce qu'il y a eu...
Non, pourquoi, sur notre 4-bet.
3-bet, 4-bet.
Ah, sur notre 4-bet, tu veux dire?
Sur notre 4 bêtes, il ferait tapis, je pense.
Ouais, il aurait pas de just call,
peut-être
ouais.
As-Dame.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, et surtout deux valets, deux 10, etc. Ça, il ne peut pas les avoir, il aurait fait tapis.
Et alors, sur quoi tu le mets pour avoir engagé autant de jetons? Il va pas avoir
alors,
engagé
y a deux
autant
choses.
De jetons avec Roi-Dame ou un truc comme ça.
Il peut avoir deux types de mains. Effectivement, Roi-Dame. Il peut avoir aussi des sous-titres connectors de type Valet 10 suité, Dame 10 suité, Dame 9 suité, Valet 9 suité, des choses comme ça. Et il peut avoir des mains comme.
Et une paire comme les 9, paire de 9 ou des trucs comme
il
ça.
Aurait non, fait tapis avant les, il aurait fait tapis avant le
flop. Ouais, il aurait fait tapis, c'est vrai. C'est vrai.
Donc, bon, ok. C'est soit il a. Ouais.
On a décidé de miser un quart du pot, à peu près 700 000 dans 2,5 millions.
J'ai dit 900.
On est suivi par notre opposant. Le pot fait 3,9 millions. Le turn 7 de cœur. Nouveau check de la petite blinde. Et la parole nous revient encore. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est encore confiant ou pas?
Bien sûr. Moi, tous les jours, je suis confiant et je lui mets tout dans le menton. Comme
c'est tapis chez Mundir,
tout
Daniel.
Dans Bogdanov, comme on dit.
Bah, moi, c'était tapis déjà Chunga. Tout à l'heure. Daniel,
mais c'est dans la brocante.
Donc là, je sais pas. Est-ce que j'aurais mis un barrel de plus? J'aurais peut-être pas fait tapis tout de suite. Quoi.
Ah, je lui mets tout.
Alors, n'oubliez jamais, au poker, on mise soit pour value, c'est-à-dire se faire payer par une plus mauvaise main, soit pour bluffer, c'est-à-dire faire passer une meilleure main. Là, je pense qu'on est typiquement dans la situation où on est soit très loin devant, si notre adversaire a une main comme, je sais pas, une main comme Roi-Dame, Valet 10 suité avec laquelle il ne serait pas cru au flop, soit très loin derrière si notre adversaire a un As avec une main comme As-Valet. Donc généralement, ça, c'est de très bonnes situations pour checker notre main.
Bah oui. Ah oui, okay. Mais, en tout cas, moi, c'est balancé, hein, je te le dis.
Ok, c'est ce qu'on a fait, on a check. Bravo, Pierre. Mais bon, étant si tu connais la main. River, valet de pique. Et là, notre adversaire prend le lead et mise 1,8 million de jetons dans 3,9 millions.
Voilà.
Il nous reste 2,2 millions de jetons. On joue quasiment notre tournoi là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait?
Bah là, nous, j'ai déjà balancé mon tapis depuis un moment. Mundir l'a balancé.
Imagine que t'es à la rivière.
Ce qui fait que moi, ce qui va m'intéresser maintenant dans cette main, c'est surtout de remonter en arrière et de savoir ce qu'il aurait fait sur mon move à tapis alors qu'on était qu'au flop. Donc là, je vais coller, mais je suis un peu perdu dans la main parce que j'aurais pas fait comme ça depuis le début. Donc je suis pressé de savoir ce qu'il a.
On décide finalement de fold et on a mal fait puisqu'en face il y a Mustapha Kanit, un joueur du team Winamax qui a, avec un grand sourire, montre dame 9 de carreau.
Eh oui, allez.
Mousse, t'es un fou.
Le mec il a fait folder les dames.
T'imagines, c'est un malade.
Et donc dans cette histoire-là, je pense qu'avec mon tapis tout à l'heure, je gagnais quand même le coup.
Mais oui, mais toi Daniel, ton problème, c'est qu'à chaque fois quand il y a un mec qui te 3 bet, d'accord, ou qui te minerest, tu penses qu'il a un as. C'est fou.
En l'occurrence, là, la vue le déroulé de la main, c'était pas complètement dingue d'imaginer qu'il est ça. Maintenant, certainement, je me trompe. C'est pas moi le bon joueur, c'est vous. Hein.
Je sais juste que le coup, je l'aurais gagné.
Peut-être mal, mais je l'aurais gagné quand même.
Bah, écoute,
je vous cache pas que moi, j'aurais perdu le coup puisque j'aurais cassé à la rivière.
C'est vrai que tu passes à la rivière
Connaissant les cartes, non. Mais si j'avais joué le coup de la même manière que Bertilsson, du coup, qui est le Suédois au bouton, j'aurais probablement qui est un excellent joueur aussi, probablement passer la rivière.
Ça, c'est de la folie. De la folie pure.
C'est un coup légendaire.
Oh là là.
Ah ouais, et Mustapha qui a fini par gagner le tournoi d'ailleurs.
Putain. Eh ben dis donc. Bravo Mustapha.
Très bien Jérémy. Belle main. Merci. Est-ce qu'on a le temps pour tu bluffes Martoni? On n'a pas le temps.
On a le
temps.
Alors on
le fait. Yes. C'est parti.
Allez là.
Tu bluffes Martoni.
Tu bluffes.
Il bluffe. Pas sûr. Si, il bluffe là, ça se voit tout de suite.
On a Yoni qui est avec nous. Bonsoir Yoni.
Bonsoir.
Salut Yoni.
Salut Yoni.
Yoni, est-ce que tu veux jouer avec la team composée de Mundir et Pierre Calamusa?
Il est tout seul Yoni?
Il est tout seul parce que Michael ne répond pas.
Ah,
ou est-ce que tu veux jouer avec Daniel Riolo tout seul?
Avec Mundir et Pierrot.
Voilà, Daniel est tout seul aujourd'hui.
Ça va, 3 contre 1, c'est bien les gars.
Le classement des plus grosses fortunes mondiales est sorti en avril dernier. Qui est-ce qui pourra me citer le plus de ses fortunes parmi le top 20?
C'est les copains.
C'est Mundir, ça.
C'est des copains, Daniel. Tu rigoles.
Qui peut m'en citer le plus? Faut pas se tromper. Hein.
1, 2, 3. J'en ai 4.
Il y en a 4 chez Mundir et Pierre.
Je pense que je peux en avoir aussi. Ouais. J'en ai aussi.
Ouais, c'est ton monde, ça aussi.
Allez, c'est bon, je les laisse.
4, on vous écoute, messieurs.
Yes.
Je commence.
Vas-y.
Vous ne gourrez pas.
Bezos,
c'est bon. Ouais.
Arnaud?
Oui.
Oui.
Vas-y, continue.
Il y en a un qui est mort, mais là, le gars, Bill Gates,
ouais, d'accord. Il en reste un.
Et comment il s'appelle, Lagardère.
Ah non. Jamais de la vie.
Bien sûr que non.
Jamais de la vie, c'est
mondial.
Perdu.
Non,
voilà, le mec, c'est Zuckerberg.
Je voulais dire Zuckerberg.
Zuckerberg, ça
n'a
pas marqué, c'est Zuckerberg.
J'ai dit
Lagardère,
mais ça
fait c'est
Zuckerberg. Il
est broke.
Vous avez oublié Bettencourt.
Bettencourt quand même.
Bettencourt en plus. Bah oui, avec le champagne que j'ai acheté.
Bravo Yoni, t'as quand même gagné un ticket de 10 euros.
Bravo Yoni.
Désolé Yoni.
Tout le monde.
Pierre, merci d'être revenu dans le RMC Poker Show.
Merci, à dimanche prochain.
Ciao. Salut Mundir.
Salut mon Daniel, prends soin de toi.
Salut Jérémy, salut tout le monde. Bonne semaine à tous. Ciao.
Pas.
Minuit, 1 heure.
C'est le RMC Poker Show.